comme celle-ci. Comment ça a été perçu par la direction d'abord, qui vous a dit oui, mais j'imagine qu'il a fallu convaincre un petit peu, et puis après par les équipes.
Non, ça n'a pas été difficile de convaincre la direction qui connaissait mon fils, qui a dit bon oui,
après, si ça tu veux expérimenter. Général,
voilà, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est surtout la relation qu'on entretient avec le patron, les actionnaires, quoi, qui fait la différence.
Et quand les collègues ont vu arriver des jeunes autistes dans l'entreprise, comment ils ont accueilli les choses et comment ils ont accueilli ces nouveaux collègues?
Ils ont trouvé ça formidable. L'accueil a été extraordinaire. Il faut dire qu'ils amènent une joie de vivre, un enthousiasme et une ambiance absolument formidable dont tout le monde bénéficie.
Et vous, une immense fierté, j'imagine?
Leur fierté, oui, sûrement, je ne veux pas dire le contraire, ça serait idiot. Mais c'est pas le moteur de base. Le moteur de base, c'est... vous avez donné les chiffres du nombre d'autistes en âge de travailler, disons, entre 20 et 40 ans, etc. Il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui pourraient bénéficier de dispositifs comme ça. Le problème, c'est comment on fait pour changer la vie de ces autistes, car on leur change la vie en leur donnant un boulot.
Ce que vous essayez de faire, vous, avec l'association Vivre et Travailler autrement, que vous avez fondé à l'époque, je crois qu'il y a aujourd'hui 50 personnes qui sont embauchées en CDI et qui ont été aidées par l'association.
Sur l'ensemble des entreprises, on est un petit peu plus maintenant, parce que ça augmente peu près, j'allais dire, pas tous les jours, mais pas loin. Et donc ça augmente un petit peu. Mais oui, c'est l'association, elle. Quand on a prévu d'essaimer, comme on dit, puisque c'est le mot, on nous a dit ça ne marchera pas.
Quels sont les mots magiques que vous utilisez quand vous voyez qu'il y a un patron ou une entreprise qui est un peu hésitante?
C'est ton intérêt de le faire. Car les entreprises, elles marchent à leur intérêt.
Ouais.
Il ne faut surtout pas leur dire sois gentil, sois généreux. La charité, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas dans cet univers-là. Et d'ailleurs, ça n'a jamais marché. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent que intégrer des personnes autistes dans leurs équipes, c'est quelque chose qui va mieux faire fonctionner leur entreprise. Et il y a eu des études tout à fait sérieuses qui ont été menées sur ce sujet. Engager des personnes handicapées dans les entreprises améliore la performance de l'entreprise. Sauf que c'est peut-être plus crédible dans la bouche d'un industriel que ça l'est dans la bouche peut-être d'une maman, d'une association. Je prends cet exemple, peut-être.
Bon, on lance un appel à tous les recruteurs de France et tous les patrons de France qui nous regardent. J'espère qu'ils sont nombreux. N'hésitez pas à embaucher des personnes atteintes de troubles autistiques. Vous connaissiez, Samuel Le Bihan, cette association et le boulot qui est fait par Monsieur Dufresne?
Je connaissais, mais en partie. Et puis, je connais aussi les Cafés Joyeux. J'étais en train juste de me dire que ce qui marche dans l'entreprise, puis ça améliore les performances de l'entreprise, marche forcément à l'école. Ça améliore forcément les performances des autres enfants. Donc, c'est un échange, quoi. Ça va pas dans l'un sens. Donc, je pense que tout le monde en sort une expérience positive et avec un enthousiasme de pouvoir célébrer le fait d'être en plein moyen, pleine possession de nos moyens et de pouvoir aider. Je crois que c'est un des secrets du bonheur aussi.
Florence Chapelle, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité dans le monde industriel? C'est possible.
On le voit dans des cas extrêmes. Chez Airbus, ils recrutent des personnes parce qu'elles ont un vrai talent pour l'informatique. La cybersécurité, ce sont les meilleurs. Moi, mon fils, il classe et il range comme nul autre. Ils ont tous quelque chose où ils sont bons. On peut toujours trouver en quelqu'un quelque chose de bon. Et je vous assure que le sourire de mon fils quand il bosse et le sourire de l'équipe qui le reçoit, c'est communicatif. La dernière fois, j'ai fait un post, 2 millions de vues parce qu'ils souriaient chez Café Joyeux, mais parce que leur bonheur est communicatif.
Café Joyeux, formidable initiative. Pardon, je le dis, on en a parlé au Trésor il y a encore peu de temps.
100% des serveurs.
Café, voilà, qui embauche 100% de personnes.
Ah bah le voilà, ça c'est un sourire qui a fait 2 millions de vues sur LinkedIn.
Alors vous dites que votre fils, il range comme personne, ça veut dire qu'il a été mis sur une tâche qu'il sait faire et adaptée à son handicap?
Oui, alors avec leurs troubles sensoriels, il a essayé un stage chez le nôtre qui s'est très bien passé, mais finalement il a fini au service informatique parce que toucher des gâteaux, il a du mal à toucher des choses crémeuses et voilà. Par contre, chez Decathlon, ranger les raquettes de tennis et des chaussures, il a adoré. Et toutes les entreprises, comme tu disais Jean-François, commencent à comprendre l'intérêt qu'elles ont. D'abord, il y a des obligations, Il y a une obligation de 6%, qu'elles respectent dans le public, mais pas encore tout à fait dans le privé. Mais au-delà de ça, elles se disent, au fond, est-ce que c'est pas un moteur collectif quand elles réfléchissent bien et qu'on les aide, il faut des associations comme VETA, parce qu'au départ, elles comprennent pas, hein, donc il leur faut des décodeurs. Mais après, quand elles s'y mettent, elles n'arrêtent plus.
Anne-Sophie Bell, votre fils Arnaud, aujourd'hui 18 ans, vous le voyez intégrer le monde du travail, comme on l'évoquait tout à l'heure, et trouver sa place?
Il a un demi-pied dedans, hein. Il est en alternance dans une boulangerie-pâtisserie pas loin de la maison, où ça se passe très très bien, ouais. Où son employeur a dit « j'aimerais bien en avoir plus souvent des comme ça », il est toujours à l'heure, il dit toujours oui, il s'efforce de s'améliorer en permanence. Ça a été toujours très 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 compliqué de trouver des stages qu'il acceptait parce que vous avouez dès le CV qu'il est autiste, donc très régulièrement on nous a dit non, on sait pas faire, donc ça va pas être possible. Donc quand on me fait sortir par la porte, je suis rentrée par les fenêtres, et ça a toujours été des expériences positives. Donc il est
heureux, épanoui,
il est super content, ouais. Il est super content, il faut que ça.
C'est pas un petit bonheur, c'est un grand bonheur, parce que vous évoquiez en début d'émission les petits bonheurs du quotidien.
C'est un soulagement, parce que ça fait partie de ces étapes où on se dit, ça peut-être qu'il le fera jamais, ça peut-être qu'il le fera jamais, et puis finalement, tout ce qu'il était supposé ne jamais faire, il y accède, et on est bien au-delà de ce qu'on avait imaginé qu'il ferait un jour.
Je voulais pas qu'on se quitte avant d'évoquer la question du logement, Jean-François Dufresne, parce que là aussi c'est important, et c'est quelque chose que vous proposez aussi dans votre projet global pour faciliter l'emploi des salariés, un logement associé à proximité. C'est fondamental, ça, d'avoir les deux.
C'est fondamental de leur apprendre autre chose que le boulot. Il faut leur apprendre la vie, parce que c'est comme ça qu'on va leur donner l'autonomie, c'est comme ça qu'ils vont accepter. Moi, ils ne savaient pas faire à manger, ils ne savaient pas laver son linge, ils ne savaient pas faire les courses, ils ne savaient pas. S'ils ne savent pas, il faut leur apprendre. Je surnomme notre dispositif école de l'autonomie. Mais pendant cette période d'apprentissage, qui est de durée variable, parce que comme à l'école, il y en a qui redoublent, et puis il y en a qui vont plus vite que les autres, qui sautent des classes, mais on va les emmener vers une vie de plus en plus autonome, vers un travail qui sera peut-être plus à mi-temps, qui sera peut-être à plein temps ou à 80% du temps. C'est un parcours de vie. Et donc, le début du parcours de vie,
ouais,
c'est de commencer à apprendre la vie. Voilà.
Étienne Beau, on se retrouve dans un an et on fait bilan.
Alors avec plaisir pour faire le bilan. Alors déjà, je salue Jean-François Dufresne, et c'est des dispositifs que l'on connaît bien et que l'on soutient. Ce que je voulais souligner, c'est que on constate que les familles prennent les devants, notamment pour reprendre des risques dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et je crois que c'est pas un vain mot de dire qu'il faut reprendre des risques. Alors ça ne veut pas dire reprendre des risques qui mettent en danger les personnes, mais c'est reprendre des risques pour que finalement des personnes en situation de handicap puissent prendre les mêmes risques que vous et nous. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est aussi que des personnes autistes puissent exercer un emploi qui leur plaise. Et vous insistiez là-dessus, c'est est-ce que vous êtes heureux quand vous travaillez? Vous posiez cette question. J'ose espérer que quand vous présentez cette émission de télévision, vous êtes heureux et vous êtes heureux de venir. Et je pense que je souhaite la même chose pour ces jeunes-là. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est que sur la tranche d'âge 16-25 ans, on a encore beaucoup à faire. Nous, Puissance Publique, on a encore beaucoup à faire parce que c'est des âges de transition, des jeunes qui sortent du système scolaire, qui globalement ont besoin de trouver des solutions, y compris par l'emploi. Et je voulais juste rajouter une petite anecdote personnelle. J'ai pu rendre visite à un des dispositifs portés par l'association de Jean-François Dufresne. Je vais être très honnête. Je me suis dit, on va me dire que c'est des personnes autistes très sévères, mais en fait, ça va être quelque chose d'assez light, et puis ceci va expliquer cela. Mais la réalité, c'est que c'est réellement des personnes qui ont un handicap très conséquent. Mais en fait, ce que ça nous montre, c'est que l'insertion par l'emploi, ça amène aussi vers une autre autonomie. C'est que derrière, il y a une possibilité aussi de commencer à penser un logement autonome, de commencer à penser autre chose que le parcours prédéfini pour lequel il y a encore trop d'enfants dans notre pays qui sont inscrits aujourd'hui.
Bien, et pour répondre à votre question, je suis ravi d'être là, mais je suis ravi aussi d'aider les gens comme vous, madame, il y a quelques années, qui avaient pu prendre conscience d'un certain nombre de choses grâce à nos émissions et le service public et le seul endroit où on peut encore le faire. Samuel Le Bihan, peut-être le mot de la fin avec vous. C'est traditionnel à chaque fois que je vous reçois, mais c'est vrai qu'on a aussi envie de donner de l'espoir, et je crois qu'on l'a fait ce soir, parce que les choses progressent, le regard de la société progresse.
Il y a une chose essentielle qui me semble, à travers tout ce qu'on a dit et le film qu'on a vu, c'est être dans une société qui ne crée pas de l'exclusion, qui ne crée pas de la solitude, qui ne crée pas du désespoir, qui ne crée pas le manque de solutions. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de construire une société qui tire tout le monde vers le haut, et d'y travailler chacun, et on a tous quelque chose à y gagner. En tout cas, c'est ce qu'on a appris ce soir.
Merci infiniment. Merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à France TV Studio, Nathalie Bourdon, Capucine Leguet, Flavie Tivol pour la préparation, Philippe Lallemand évidemment et ses équipes pour la réalisation et à toutes les équipes techniques de France 2. Merci surtout de nous être fidèles pour ces grandes soirées continues sur ces grands débats de société. Pour revoir le film Tune Tura Point avec vous Samuel, ce sera bien sûr sur la plateforme France Télévisions. Pour aller plus loin, je rappelle votre livre, on l'a évoqué tout à l'heure, Un bonheur que je ne souhaite à personne, c'est aux éditions maintenant J'ai lu. En poche.
Oui, en poche.
Florent Chapelle, Autisme, La Grande Enquête, coécrit avec Sophie Le Callennec aux éditions Les Arènes. Et puis, dans quelques secondes, la soirée continue avec Infrarouge, le documentaire de L'or dans les yeux qui raconte